Bonsoir les amis des livres et des apéros. Usurper une identité, c'est mal. Se faire passer pour quelqu'un d'autre, mais quelle idée! Cette fantaisie, susceptible de poursuites, ne peut germer que d'un cerveau toxique ou malade. Ah bon? Ah? Et vous en avez d'autres, des clichés comme ça? S'indigne la littérature. Oh! Bah en tout cas, la bêtise de Dupont-Moneau, c'est pas usurper. Regardez du côté des livres. Voler une identité, mais c'est la base du romanesque. Romain Gary en sait quelque chose, qui se fit passer pour Émile Ajar. Et le roi Arthur aussi. Il est né des ébats entre une femme et un homme qui avaient pris l'apparence du mari. On peut donc voler une identité par amour et parfois aussi par paresse. Comme le personnage de un héros très discret de Jean-François Deniau qui s'invente une glorieuse identité, histoire de ne pas se frotter à sa propre banalité. Bref, voler un nom, voler une vie, c'est parfois salvateur. Et si vous en doutez encore, lisez En cas d'exposition des personnes d'Isabelle Marié, paru chez Flammarion. Un jour, Ariane vole le sac d'une grosse dame. Et dans ce sac, il y a un billet de train. Ariane ne connaît pas la ville de destination, mais parce que sa vie a vraiment besoin d'un coup d'éperon, elle monte dans le train. Elle est la seule à en descendre. Elle se retrouve dans un endroit étrange, avec des machines de chantier renversées, quelques oiseaux et un grand silence. En fait, c'est un endroit bourré de déchets radioactifs. Et selon un programme gouvernemental, baptisé « Programme de fin de vie solidaire », des volontaires désirant mourir se sont inscrits pour venir enfouir ces déchets. La grosse dame à qui appartenait le sac s'était justement portée volontaire. Voilà donc Ariane dans un no man's land où on vient pour mourir, surveillée par des caméras. Alors évidemment, soudain, Ariane ne sait plus trop si elle a envie de disparaître. Cette fable, à la fois portrait intime d'une femme et récit de science-fiction, est racontée d'une voix très douce par une romancière délicate et frêle. Attention, les apparentes fragilités sont souvent redoutables. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Isabelle Marié, mais pas radioactif. Elle nous livrera ses secrets d'écriture, aussi enfouis qu'un déchet nucléaire, ce sera le procès-verbal, nous offrira ses goûts culturels cachés comme un plan de fuite, ce sera les inavouables, avant qu'un libraire, gardien de notre départ, ne vienne adouber nos vols et nos envols comme unique nom de famille.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Moneau.
Bonsoir Isabelle Marié.
Bonsoir Clara.
À la base, Ariane, je cite, mène sa vie telle une promenade dans un jardin à la française en suivant des allées. Ça signifie qu'elle vit sagement?
Elle suit des allées, elle n'en sort pas. C'est un jardin à la française, donc les allées sont droites, arrivent à des ronds-points et là, on choisit d'autres allées. Donc elle est sage, mais elle ne va pas au pas de tout le monde.
Voilà peut-être ce qu'elle aurait pu dire, votre Ariane.
Vous, vous avez de l'aisance partout. Tout le temps, vous tutoyez tout le monde. Moi, je n'y arrive pas. Je n'ai pas eu votre éducation. Je ne suis pas aussi désinvolte. Je sais bien qu'ici, il faut être plus cool. Moi, je suis pas une fille cool. Rock'n'roll, comme vous dites.
L'auberge espagnole de Cédric Clapiche en 2002, c'est Ariane qui parle, on a l'impression.
C'est Ariane qui parle, oui, c'est pas du tout une fille cool. C'est une fille pourtant qui est marginale, parce qu'elle est divorcée dans un milieu où ça ne se fait pas. Et elle est la maîtresse cachée d'un homme marié. Elle a un métier qui n'en est pas vraiment un. Elle aide à l'organisation de réceptions mondaines. Elle fait tout ça d'une manière un peu détachée. Elle a de l'argent de famille. Et en fait, elle est très solitaire. Et isolée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Est-ce que sa bonne éducation l'encombre ?
Oui, elle ne sait pas très bien qu'en faire. Elle n'imagine pas autre chose parce qu'au fond, c'est une femme qui aime bien être à la lisière. Elle attend que quelque chose arrive. Elle attend une catastrophe qui la délivrera, qui lui donnera l'occasion de casser son moule tout en n'en étant pas responsable. Elle a une part de lâcheté. Elle ne s'intéresse pas au monde autour d'elle. Elle ne trouve pas sa place.
En tout cas, voler n'est pas exactement dans le curriculum éducatif qu'elle a reçu. Et pourtant, elle va dérober un sac. Alors, elle vole par impulsion ?
Elle vole totalement par impulsion. Elle-même vient d'être victime d'un vol à l'arraché. Et elle trouve un sac qui est le même que le sien. Et elle le vole, comme si c'était le signe qu'elle attendait, quelque chose de totalement inattendu, qu'elle va pouvoir saisir et qu'elle va pouvoir transformer.
Alors, elle réalise un vieux fantasme, celui de prendre le premier train qui passe, parce que voilà. Dans le sac volé, il y a un billet de train Et la voilà dans ce train. Direction Miorera. Ah, alors Miorera. Comment ça vous est venu ce nom?
Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses dans ce livre dont j'ignore l'origine. C'est comme un rêve, c'est quelque chose de très onirique qui m'a traversé, qui m'a été donné. Un peu comme Fellini qui avait son grand livre des rêves et tous les matins il dessinait ce qu'il avait vu en rêve. Alors je ne peux pas dire que je l'ai vraiment vu en rêve, mais il y avait quelque chose de ce genre. Je n'ai pas réfléchi. Et ça a été un livre qui a été très long à écrire. Mon dernier document Word, c'était la version 48 quand même.
48 versions.
Oui,
c'était... Collector.
C'était Collector.
C'était ce livre, Isabelle
Marié. C'était
Collector. Alors, est-ce qu'on peut dire que Miorera, c'est une zone contaminée? C'est une zone qui est loin de la capitale. Elle monte, on la descend, on ne va pas raconter comment, mais elle se retrouve dans une zone qui est contaminée. Ça, est-ce que c'est juste?
Oui, c'est totalement juste. C'est une zone où on stocke des déchets dont on ne sait que faire. Comme il en existe beaucoup en France, quand on se promène dans des campagnes un petit peu reculées, on se rend compte qu'il y a des zones dont on ne sait rien, qui sont entourées de barbelés, qui sont... Est-ce que c'est militaire? Est-ce que c'est des zones de déchets? Est-ce que... On ne sait pas.
Sauf que les gens qui viennent chercher Ariane sont recouverts d'une combinaison blanche,
oui,
avec un masque, donc on peut supposer que ce sont des déchets radioactifs.
On peut le supposer.
Vous ne le dites jamais?
Je ne le dis jamais.
C'est l'idée du sens de l'implicite.
Et finalement, c'est peut-être pas ça. Finalement, c'est peut-être le fait que les gens viennent qui est important, plus que les déchets eux-mêmes. Et d'ailleurs, le Clichy, le personnage qui vient chercher les volontaires à la gare, il s'interroge sur est-ce que vraiment c'est aussi dangereux que ça?
En même temps, sous une combinaison blanche, on comprend un peu.
On comprend un peu.
Si vous voyez balader la combinaison blanche. Vous décrivez un paysage dévasté. Miorera,
oui,
est un paysage dévasté.
Oui.
Vous auriez pu décrire finalement un désert ou un paysage lunaire ou une sorte de jungle où la nature aurait repris ses droits. Mais vous avez choisi un paysage de chantier. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette idée du chantier?
En fait, Miorera, c'est une accumulation de strates historiques. À l'origine, c'était un village de pêcheurs et on a trouvé des mines. Et cette mine, à la suite d'un tremblement de terre, a été rendue inutilisable. Donc, il y a eu une époque où on a décidé d'utiliser les puits pour accueillir des déchets dangereux. Et donc, ça a été la troisième époque. Et puis, en fait, il y a eu un moment où tout ça n'a plus été possible et on a tout abandonné. Donc, c'est un chantier, oui, parce que tout a été inachevé. Et on n'a pas réinvesti l'espace. On s'est contenté de circonscrire et de laisser faire. Mais la nature quand même reprend plus ou moins ses droits.
Oui, parce qu'elle voit passer des autruches.
Les autruches, elles venaient d'une ferme d'expérimentation parce que c'était des animaux qui résistaient bien à une atmosphère délétère.
Est-ce qu'il y a des paysages en France d'aujourd'hui qui vous ont inspiré pour imaginer Miorera?
Non, en fait, j'ai beaucoup regardé des vidéos concernant Fukushima et Tchernobyl. C'était vraiment cette idée-là. Et les autruches, il y en avait à Fukushima.
Il y a des volontaires, justement, qui ont été sollicités par un programme gouvernemental, dans votre roman, Isabelle Marié. Et ces volontaires, ils ont accepté d'aller enfouir les déchets nucléaires,
oui,
et d'y laisser leur vie.
Oui.
Vous parliez de Fukushima il y a quelques secondes. Et bien justement, les liquidateurs à Fukushima en 2011, ils avaient un peu ce même rôle.
J'étais dans la centrale lorsque le tremblement de terre s'est produit. Une secousse terrible, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Puis il y a eu le tsunami. Les haut-parleurs ont crié « Alerte 15 ! Alerte 15 !» Personne ne savait ce que ça voulait dire. Il s'agissait probablement d'un très grave accident. Les jours suivants, j'ai commencé à imaginer le pire, que la centrale allait détruire tout le monde dans un rayon de 300 km, y compris Tokyo. Quand j'ai vu les pompiers et les autres au travail dans des conditions si dangereuses, j'ai voulu proposer mes services. J'étais prêt à sacrifier ma vie pour sauver le pays.
Un liquidateur de la centrale nucléaire de Fukushima, voilà, prêt à sacrifier ma vie pour sauver mon pays. L'idée, Isabelle Marié, est-ce que c'est celle-ci, mourir pour son pays? C'est-à-dire que c'est le suicide comme déclaration patriotique?
Non, pas du tout. C'est plutôt une utilisation du découragement des gens, de leur sentiment d'inutilité, qui vont les pousser à faire ça. Ils ne sont même pas reconnus officiellement par les autorités comme étant des héros, ce qui n'était pas le cas à Fukushima et au Japon, où ces liquidateurs étaient vraiment considérés comme des êtres... Enfin, ça rentrait vraiment dans la tradition japonaise du sacrifice absolu. Là, on parle à peine de sacrifice. J'ai introduit des textes de loi ou des textes de réglementation où on dit aux gens, ben voilà, vous êtes un peu décourageux. Enfin, c'est une forme d'euthanasie. C'est une forme de mort assistée. Vous savez pas trop que faire de votre vie. Bah écoutez, si vous voulez, on a une solution pour vous, une solution qui est belle parce que bah, vous allez quand même vous rendre utile, mais on ne les valorise pas.
Il y a quand même un cynisme gouvernemental que vous pointez du doigt, parce que si je comprends bien, c'est un gouvernement qui orchestre la disparition de ses citoyens.
Ben, c'est-à-dire, c'est des gens qui se disent, ben voilà, il y a de plus en plus de gens qui veulent mourir ou qui ont un sentiment que leur existence devient de plus en plus inintéressante ou ils ne sont pas utiles. Quand on est une personne un peu seule, un peu médiocre, pas toute jeune, quand on est arrivé au bout d'un certain nombre de déceptions, quand on comprend plus le monde tel qu'il est, et ben là, on a une solution. On se dit, ben oui, vis-à-vis de moi-même, je fais quelque chose qui est quand même bien. Alors, c'est cynique de la part du gouvernement, oui.
C'est la gestion du désespoir, vue de façon un petit peu dure, quand même.
Ah ben vous êtes désespéré. C'est abominable. Voilà. C'est abominable. C'est absolument scandaleux. C'est monstrueux. Je le dis bien tranquillement.
Mais on est d'accord.
C'est absolument scandaleux. L'idée, c'est que, en fait, on laisse sous-entendre qu'il y a des gens qui sont des déchets. Qu'il y a des gens qui sont des grille-pains déglingués. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'un grille-pain déglingué? Ben, on le garde un certain temps dans son placard, et puis un jour, on se dit, bon, ben, ça peut-être temps de songer au recyclage.
Et donc, les déchets,
et donc, on les recycle.
Oui, puis même, les déchets rejoindront les déchets.
Les déchets rejoindront les déchets. C'est vraiment la notion du déchet. Et donc, l'État, des instances, on ne sait pas très bien, finalement, instaure le droit à la fin utile, à la fin solidaire avec autrui, dans les droits humains.
Donc, que vous imaginiez qu'un gouvernement puisse être aussi insidieusement toxique, est-ce que ça ne dénoterait pas un petit fond un petit peu anard qui consiste à dire dites...
J'en sais rien. Disons que je pousse, je crois que plus que de la science-fiction, c'est une espèce d'anticipation où on grossit certains traits. Mais il y a par exemple des théories qui vous expliquent que bah oui, de toute façon, il y aura un certain nombre de gens qui ne seront plus intégrables dans le monde du travail. Donc, bah écoutez, le mieux, c'est qu'on les mette avec une petite allocation, des distractions pas trop chères via la télévision ou d'autres choses. Et puis voilà, ces gens seront là, on ne saura pas qu'en faire. Ben on les maintient comme ça.
Pour autant, est-ce qu'on peut lire votre roman, Isabelle Mariée, comme une dénonciation du nucléaire?
Non, pas réellement. Effectivement, il y a un problème majeur sur les déchets produits, mais même si on arrête le nucléaire maintenant, c'est vrai que le démantèlement des usines, c'est absolument colossal, les travaux qu'il faudra entreprendre pour recycler les déchets.
Donc il n'y a pas cette dimension un peu militante?
Non, il n'y a pas du tout de dimension militante. C'est plutôt une espèce de méditation sur, ben voilà, on est dans ce monde, et ça peut nous mener à ça.
Nous nous sommes demandé ce qu'elle aurait écouté votre petite Ariane comme musique.
Ah oui,
ah oui, alors aucune chanson ne racontait le vol d'un sac, on a bien cherché.
Ah oui,
donc, ni non plus sur une autruche qui traverse la route, on n'a pas trouvé. Alors, on s'est rabattu sur Respire de Mickey 3D, c'était en 2003, rappelez-vous, c'est en fait le premier tube écologique, et puis qui annonce ce qu'on est un peu en train de vivre, et qui annonce votre roman, Isabelle Mariée, les choses sont bien faites.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
La muse-bouche sur France Inter.
Isabelle Marier est avec nous jusqu'à 20h pour son roman En cas d'exposition des personnes, l'histoire d'un endroit en France où des volontaires peuvent mourir en enfouissant des déchets nucléaires. Juste parce que j'y pense, Isabelle Marier, vous n'avez pas pensé à la Hague en France.
Et parce que c'est ça, la Hague. Quand même, la Hague, c'est ça. La Hague, c'est une presqu'île qui, effectivement, peut être coupée du monde si un accident survient.
Bon, bah écoutez, les habitants de la Hague sauront qu'il faut acheter absolument en cas d'exposition des personnes. Voilà ce qui les attend. Cela dit, le principe des volontaires qui peuvent venir mourir en enfouissant des déchets nucléaires, ça s'appelle dans votre livre un programme de fin de vie solidaire orchestré par le gouvernement. Et il y en a une parmi vos volontaires qui s'appelle Anne Méroé. Elle a donc accepté de prendre le train, d'aller enfouir un déchet et quitte à y laisser la vie. Seulement, elle a une particularité, Anne Méroé.
Quand on est obèse, on est victime de discrimination puisque Air France ne se gêne pas pour faire payer souvent deux places d'avion. Dans certains restaurants, on ne peut pas aller puisque vu comment sont les chaises et comment c'est aménagé. Le cinéma, c'est la même chose. Et on ne peut rien faire. J'ai jamais vu une personne obèse dire « je ne peux pas rentrer à tel endroit, donc je vais au tribunal ».
Témoignage de Karine Robles qui pesait 200 kilos. Témoignage qui date de 2012. Pourquoi avez-vous choisi, vous, un personnage obèse, Isabelle Marier ?
Parce que je pense que c'est un état qui isole beaucoup les gens. On a l'air de supposer que c'est un peu de leur faute.
Et du coup, si vous choisissez un personnage obèse, est-ce que c'est implicitement aussi pour rendre justice à ces gens-là qu'on voit jamais, ni dans les films, assez peu dans les livres, encore moins dans la vie publique?
Oui, il y a quelque chose comme ça. Et puis je pense que parce que ça représente effectivement une part de la société, comme vous le dites, qui est invisible. Ils sont là pourtant.
Anne Méroé, votre personnage, quand elle est à la gare, elle lit les affiches et elle lit « Soyez belle, la beauté est en vous, printemps, sortez les pastels ». Et puis elle entend « Attentifs ensemble, mordez dans vos envies, en salle mercredi ». On a l'impression qu'elle est agressée par tous les discours marketing qui orchestrent notre quotidien.
Je crois qu'on l'est tous, plus ou moins. Ce sont des injonctions à être beau, à être heureux, à être en pleine forme. Elle est inondée de propositions.
De rêves en forme d'ordre.
On ordonne aux gens beaucoup de choses, mais pour notre bien. On ne va pas s'en plaindre.
C'est pire. Anne Méroé, en plus d'être obèse, elle est malade.
Oui.
Et puis, vous lui avez donné une situation qui est celle de femme de ménage. Bon. Donc, oui. D'un côté, on a une obèse malade de petites conditions. Et de l'autre, revoilà Ariane, dont on parlait au début de cette émission, bien née, bien élevée, cette fois de hautes conditions. Vous rejouez la lutte des classes ?
Non, mais ce n'est pas du tout une question de lutte des classes. Elles ont en commun, toutes les deux, d'être dans des classes sociales très opposées. Anne, c'est quasiment le quart monde. Elle a été élevée à la DAS, elle a suivi des centres d'aide par le travail, elle a pu trouver des ménages à faire, mais enfin bon. Et de l'autre côté, donc c'est vraiment quand même une minorité de la population. Et Ariane, elle, elle vient d'une classe assez proche de l'aristocratie, depuis des générations sont à l'aise, etc. Donc elles sont toutes les deux quand même en haut et en bas. Mais à l'intérieur de leur classe, elles sont elles aussi marginalisées. L'une parce qu'elle est très malade et qu'elle a toujours été seule parce qu'elle a mauvaise haleine. C'est à l'air de rien, mais c'est, enfin, elle est atteinte d'une maladie où elle cumule absolument tout. Et comme je vous le disais, Ariane, c'est la même chose de l'autre côté. Donc, toutes les deux, c'est pas la lutte des classes, c'est toutes les deux deux solitudes humaines à l'intérieur de la société. L'une en haut et l'autre en bas.
Et elles ont peut-être un autre point commun, qui est le corps. Parce que Ariane dit qu'elle habite son corps avec politesse, je vous cite. Et Anne, elle, eh ben, elle y est enfermée comme une prison, puisqu'elle a 130 kilos en trop. Dans les deux cas, on a l'impression que le corps, c'est un adversaire. C'est pas un allié.
J'avais pas pensé, mais
bah,
oui.
Vous serez pas venu pour rien. Voilà.
J'avais pas pensé, mais oui, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et finalement, Ariane, sans tout dévoiler, elle va convaincre avec son corps, elle va arriver à changer la donne avec son corps.
Anne, elle n'y arrivera pas.
Anne, elle arrive, si, parce que en fait, Anne est condamnée. Elle a une maladie très grave et de toute façon, elle va mourir. Elle le sait. Elle a cru le discours du programme de faim solidaire, qui en fait, lui, vole sa propre mort. Et finalement, son corps va lui donner une réponse intime. Une réponse qui n'appartient qu'à elle.
Avant cette issue-là, elle se dit qu'elle veut mourir. Quand elle s'inscrit à ce programme de fin de vie solidaire, elle sait ce qui l'attend.
Non, je ne dirais pas qu'elle veut mourir. Elle ne veut plus vivre.
D'accord, elle ne veut plus vivre. Alors, nous lecteurs, on le lit un petit peu comme une sorte de suicide un peu refus. On pense à Stéphane Zweig, en fait, qui avait formulé sa résistance au nazisme par son suicide, en disant à un moment, c'est le suicide refus, je ne veux pas rentrer là-dedans. Est-ce que la décision de Anne Méroé de marcher dans ce programme de fin de vie solidaire ressemble à un refus ?
C'est exactement ça. Elle ne veut pas y aller. C'est pour ça que je veux dire, elle ne veut pas mourir pour mourir, mais elle ne veut pas vivre dans ce monde-là.
Mais elle sait en même temps qu'elle va mourir en y allant.
Elle sait qu'elle va mourir en y allant, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fît d'autre ? C'est ce qu'on lui offre. Et elle croit ce discours-là. Elle le croit. Enfin, elle le croit. Est-ce qu'elle le croit vraiment ? Au fond d'elle, elle sait que non, parce qu'elle sait que tous ces discours, comme les slogans marketing à la gare, sont des mensonges. Il n'y a pas une place qui lui permet d'être humaine et d'être vraiment en relation avec les gens.
Est-ce que c'est pour ça qu'à un moment, Ariane dit « Venir à Murera est un dramatique mouvement vers la liberté ».
C'est exactement ça.
Lorsque vous entendez Emmanuel Macron, retour à l'actualité, pardon.
Oui.
Quand vous l'entendez, qui déplore ceci.
L'heure est grave. Je prends note de la décision du président américain de se désengager de l'accord de Paris sur le climat. Je respecte cette décision souveraine, mais je la regrette. Et je considère qu'il commet là une erreur pour les intérêts de son pays et de son peuple, et une faute pour l'avenir de notre planète.
Est-ce que vous vous dites dans ces cas-là, Isabelle Marié, que la position d'un Donald Trump relève, on parlait de suicide, mais d'une démarche un peu suicidaire pour la planète ? Parce qu'on ne peut pas ne pas faire le parallèle avec aujourd'hui la prise en charge, ou non d'ailleurs, des urgences climatiques, avec quand on lit votre livre, qui est quand même une fable aussi d'anticipation. Donc est-ce que quand vous entendez ça, comment vous le percevez ? Vous vous dites que là, il y a quelque chose d'un peu suicidaire quand même pour la planète ?
Ah, complètement. Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'on a un mode de vie qu'on sait qu'on ne peut pas maintenir parce qu'on est sur une Terre qui est finie, et on continue ? Je dis, c'est suicidaire pour la planète, mais qu'est-ce qu'en nous, en chacun d'entre nous, il se passe pour que nous continuons à vivre comme nous vivons ?
Vous donnez un peu la réponse dans ce livre, puisqu'il y a un gouvernement qui décide qu'on va éliminer les citoyens, leur donne une possibilité de disparaître. Vous nous mettez en garde avec ce livre, Isabelle Marié.
Ah mais complètement, c'est tout à fait ça, parce que c'est quasiment mathématique. Je crois que ça ne choquerait pas tellement les gens. C'est-à-dire que demain, il y aurait présenté d'une manière intelligente un programme de ce genre, il y aurait des gens pour le faire.
Pour autant, est-ce que c'est un livre triste?
Ah non.
Bah voilà,
ah non, pas non, du non, tout. Non. Et la fin dit que, bah non, au contraire, parce que nous sommes libres.
On peut donc le lire comme un appel à la résistance aussi.
C'est un appel à l'insoumission et à la résistance. Et c'est d'abord en soi qu'il faut vraiment s'interroger sur sa capacité à dire non. À quoi on dit oui? Et c'est souvent des toutes petites choses.
Non, mais c'est l'idée que la grande défaite se joue, en fait, à tout petit pas.
Oui.
Sur vraiment. Des tout petits renoncements.
Oui.
Ben après votre livre, mais... on va prendre les halbardes et on
voilà,
va les mettre
un peu
le feu.
Mais c'est pas du tout un livre triste. Au
non, c'est un livre plein d'espérance et bizarrement très gai.
Oui, et puis j'ai voulu, ça c'est ma coquetterie, j'ai voulu qu'il soit beau, qu'on se rappelle la beauté du monde, la beauté des autruches, la beauté du ciel, puis de l'être humain quand il sait. Ne pas se perdre de vue.
En parlant d'être humain, Isabelle Marié, oui. Eh ben on va passer au vôtre, votre voilà. Petit être. Autrement dit, votre façon d'écrire. En bref, c'est l'heure du procès-verbal. Votre nom,
Marié.
Votre prénom,
Isabelle.
Vous écrivez assise, couchée ou debout?
Assise et debout, je marche beaucoup.
Vous êtes sur ordinateur ou sur papier?
Les deux.
Vous êtes chez vous, vous êtes au café?
Jamais au café, j'ai besoin de silence.
Quand vous écrivez, vous êtes en jogging mou, pas terrible, ou alors vous êtes très apprêté façon tapis rouge?
Je suis normale, mais j'enfile un horrible gilet gris, tout effiloché.
Parce que vous avez froid?
C'est ma... Oui, on bouge pas beaucoup quand on écrit, c'est pour ça que je marche, mais quand même.
En période d'écriture, votre sommeil, il est plutôt serein ou tourmenté?
Comme j'écris tout le temps, serein.
Le téléphone sonne, est-ce que vous décrochez?
Il sonne jamais, je suis toujours sur silencieux.
À quoi ressemble votre pause?
Je vais marcher. Je trouve que mes idées s'endorment quand je les assaigne, disait Montaigne, si mes souvenirs sont exacts. Eh bien, je suis pareil.
Qu'est-ce que vous faites quand ça vient pas?
J'écris. C'est la seule manière pour que réamorcer la machine, faire venir de l'eau dans le moulin.
Donnez-moi un mot pour définir la seconde, juste avant de vous mettre à écrire.
Sauter.
Un mot pour la seconde qui suit le point final.
Un mot d'enfant, déjà.
Vous êtes libérée de ce procès verbal, Isabelle Marié. Fait-on ça avec des charlatans. Il y en a bien une qui a usurpé une identité, que
et
je sache.
Oui,
et
ben
voilà.
C'est pas faux.
C'est pour ça qu'on vous a pris, nous avons grande finesse d'esprit, à la muse-bouche, The Charlatans, au moins on est bien basique. Et voilà. C'est de la Britpop anglaise qui n'a pas changé depuis les années 80. Un peu comme Catherine Deneuve.
Non, voilà. We'll be right back.
Vous écoutez l'Amuse-Bouche sur France Inter avec Isabelle Marié et son roman « En cas d'exposition des personnes » qui se déroule dans un endroit reculé et truffé de déchets radioactifs. Eh bien moi j'en connais, Isabelle. Qui irradie sans faire de mal? Qui sont les noyaux de cette émission? Ce sont les... Mais alors, je file la métaphore. Ce sont les libraires. Et je ne sais pas pourquoi, ça doit être un jour de fission atomique le samedi. C'est très bizarre parce que à chaque fois ils nous appellent à cette heure-ci. Mais alors allez savoir pourquoi. Oh! Que disais-je?
Ah oui, quand même.
C'est une sonnerie, madame.
Non, mais il faut fuir tout de suite, là.
C'est une sonnerie. Allô?
Oui, bonsoir Clara, c'est Claire, j'appelle pour l'apéro.
Mais bonsoir, mais bonsoir, vous faites Claire. Bien Claire. Alors attendez voir Claire, sous le masque et la combinaison blanche, je crois déceler Claire Rémy de la librairie Maupetit à Marseille. Est-ce que c'est bien vous?
C'est bien ça, vous êtes très forte.
Voilà, mais vous avancez en zone sécurisée Claire, vous pouvez y aller. Je file la métaphore. Pouvez-vous nous dire quelle est la question la plus saugrenue entendue dans votre boutique?
C'était il y a quelques semaines. Un monsieur est arrivé, et moi je suis au rayon BD à la librairie. Il est arrivé, il m'a demandé comme ça, tout à trac, bonjour, je veux une BD drôle sur les migrants.
Ah, ouais.
Quand on vous pose cette question-là, c'est un peu étrange quand même.
Avez-vous quelque chose de...
J'en ai sorti quelques-unes en lui disant, ben voilà, ça parle des migrants, de l'immigration, mais c'est loin d'être rigolo quand même. Et là, il me dit, ah oui, effectivement, parce que moi, je veux faire un spectacle de marionnettes, en fait.
Comment ça, un spectacle? Mais même ça, ça me fait froid dans le dos, moi. Pourquoi un spectacle de marionnettes avec un truc super comique sur les migrants? C'est... Avez-vous quelque chose de funky sur la strangulation? Il y a un côté...
Voilà.
Oui, c'est ça.
Bon, après, j'ai bien compris, je pense que c'est tout à son honneur de vouloir dénoncer le sort des migrants par l'humour, mais la façon de le formuler était un peu abrupte, quand même.
Quel roman conseilleriez-vous à Isabelle Marié, Claire?
Alors, bonsoir Isabelle.
Bonsoir Claire.
Je vous conseillerais une BD. Une BD qui s'appelle Mauvais genre, qui a été écrite et illustré par Chloé Cruchaudet.
C'est publié chez Delcourt, je crois.
Oui, c'est chez Delcourt, tout à fait.
Et qu'est-ce que
c'est
ça raconte?
C'est publié chez Delcourt et c'est tiré d'un roman qui s'appelle La garçonne et l'assassin de Fabrice Virgili et Daniel Voldman. C'est en fait l'histoire d'un homme pendant la Première Guerre mondiale qui cherche à fuir la guerre, qui va en fait déserter le champ de bataille. Et pour se cacher jusqu'à la fin de la guerre, il va se travestir et vivre en femme, en fait, pendant des années. Donc, au départ, il n'ose pas trop sortir, et finalement, il va sortir, il va même avoir un métier, et ça va passer complètement inaperçu.
C'est l'idée d'usurpation d'identité qui vous a donné l'idée pour Isabelle Marié?
Absolument. Ah oui, c'est exactement très... ça, et le fait que, voilà, à quel point on peut jouer un rôle rien qu'en revêtant les habits de quelqu'un d'autre, en fait.
Bah, dis donc, ça donne envie, Claire.
Oui, c'est très, très original.
Rappelez-nous la référence pour les auditeurs.
Donc, c'est Mauvais genre de Chloé Cruchaudet et c'est publié aux éditions Delcourt.
Merci, Claire Rémy de la librairie Maupetit à Marseille. Et puis, merci au magazine Page, rédacteur central des libraires de France, qui vient d'ailleurs de sortir son numéro d'été. Claire, on vous attend pour un apéro sans combinaison, hein, libre. Au milieu d'une nature préservée.
Avec plaisir, mais n'hésitez pas à venir à Marseille, c'est encore mieux pour l'apéro.
Ah ben ça, oui, mais alors ça, sur le vieux port, c'est pour nous, pas encore contaminés. À tout de suite, Claire.
Merci, bonne soirée.
Au revoir. C'est l'heure des inavouables, Isabelle Marié. Ah ben oui, parce qu'attendez, on a beau être la reine des voleuses clandestines, on n'en est pas moins humaine, donc faillible. Y a-t-il une chanson, un film ou un programme télé catalogué un peu ringard, un peu kitsch, mais que vous aimez néanmoins?
Ah, c'est de l'eau.
C'est de l'eau, c'est-à-dire?
De Claude François.
C'est de l'eau, bien sûr. C'est de l'eau,
c'est
du
de
vent.
L'eau. C'est de l'eau, c'est du
c'est
vent.
C'est de l'eau, c'est du vent.
C'est de l'eau, c'est du vent. Que l'on doit et que l'on oublie. Ça de fin, émouvant. Et mes pas se perdent dans la nuit. Merveilleux soleil qui nous redonne chaque jour l'illusion de croire qu'on durera toujours.
C'est l'anti-chanson radioactive.
C'est l'anti-chanson radioactive, mais elle, je l'aime énormément parce qu'elle dit quelque chose de tout simple. J'ai aucun sens musical, moi, donc il faut pas trop me demander. Mais donc du coup, j'aime bien les paroles. Et elle, en fait, elle dit que la vie est quelque chose de grave et donc qu'il faut surtout pas la prendre avec sérieux, mais avec le plus possible de légèreté. Ne pas s'encombrer de ses regrets, il y aura l'avenir, mais surtout, il y a là, maintenant, le présent. Et quand on parlait d'insoumission, et ben ça commence là tout de suite maintenant.
Avec Claude François.
Avec Claude François, parfaitement.
Du côté de la télé, Isabelle Marié, avez-vous un penchant inavouable pour certains programmes? En général, on en a toujours un.
Alors, ça fait très très longtemps que j'ai plus la télé, ce qui est déjà très 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 inavouable. C'est plus de 20 ans maintenant.
Ah oui, vous êtes une STF,
je suis sans téléfixe. Mais en revanche, j'avoue un penchant, mais tout à fait honteux, pour les documentaires animaliers.
Une queue de singe, des yeux de caméléon, une tête de cheval. À première vue, nous sommes face à un puzzle du règne animal. L'hippocampe a tout, sauf l'apparence d'un poisson.
C'est dit avec un ton très sérieux. Hein.
Mais c'est très sérieux.
C'est très amusant.
Attendez, mais l'hippocampe, c'est extraordinaire. C'est le seul mâle quand même qui est enceint.
Et si vous me mettez sur la langouste épineuse,
ah, hein, oui,
je n'avais plus vous lâcher.
Donc. La langouste épineuse.
Ah, la langouste épineuse, c'est... Non, je ne vais pas vous raconter non, ça. La langouste épineuse, ça sera pour une autre
fois. C'est phase. À ce point.
Ah non, mais c'est un animal extraordinaire parce qu'il a gardé probablement la mémoire d'une glaciation. Et il continue à migrer une fois par an sur une quinzaine de kilomètres sans savoir pourquoi.
D'accord.
Puis après, il revient chez lui tout seul. Enfin, c'est complètement absurde.
Alors, s'il y a des auditeurs qui nous prennent à ce moment-là, ça n'est pas l'émission d'Alain Bougrain-Dubourg. Non, c'est une émission littéraire.
Oui, je suis désolée.
Je vous assure. Avez-vous un classique, Isabelle Marié, qui vous tombe des mains ? C'est-à-dire le grand chef-d'œuvre, il faut l'avoir lu et puis ça ne marche pas.
Alors, c'est pire que ça parce que c'est un auteur entier et c'est Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau.
Oh,
moi, je suis d'accord avec vous.
Jean-Jacques Rousseau,
Les confessions, c'est ça ou pas ?
Alors, les confessions, déjà, il est antipathique.
Oh, tellement.
Il n'arrête pas de se plaindre.
Il chouine.
Son histoire d'érection quand il avait, je ne sais plus quel âge.
Quand il prend une fessée.
Il a une érection. Et ça nous fait.
Toute sa vie.
Et alors, même les rêveries d'un promeneur solitaire qui sont quand même. Moi, j'aime bien marcher, donc j'ai lu beaucoup de choses sur la marche. Bah, même là, je n'y arrive pas. Il me tombe des mains. Et puis surtout, je l'aime pas.
Ah ben voilà. Jean-Jacques, si tu nous écoutes, voilà, dans les dents. C'est sur ces paroles définitives que nous rangeons les amuse-bouches. Venez, que vous soyez vous-même ou quelqu'un d'autre, on fera comme si on savait pas, on sera gentil. En cas d'exposition des personnes d'Isabelle Marié est parue chez Flammarion. L'amuse-bouche est une supercherie honteuse, orchestrée par Marie-Annick Rimbaud, dont c'est l'anniversaire. Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Stéphane Beaujard. Bonne semaine. N'oubliez pas de devenir quelqu'un d'autre de temps en temps. Donc, en fait, lisez des livres. Hein, comme ça, c'est plus simple. On vous embrasse et à samedi.